Et c'est le journal de Marc Fauvel. Bonjour Marc.
Bonjour à tous. À la une ce matin, regarde les hommes tombés. Nouvelle tempête à Hollywood. Cette fois, c'est le réalisateur Woody Allen qui est dans l'œil du cyclone. Sa fille adoptive parle pour la première fois depuis des décennies et raconte les agressions qu'il lui aurait fait subir dans sa jeunesse. En France, c'est plutôt balance ton aéroport. Clap de fin pour Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement demande aux zadistes d'évacuer les routes qui y mènent à la zone et de partir au plus tard d'ici fin mars. 6 mois pour plancher sur quelques-uns des sujets de société les plus importants. La fin de vie, la PMA, la GPA, les états généraux de la bioéthique sont lancés aujourd'hui. On en parle, Nicolas, à 8h20 avec le grand organisateur de ces débats.
Le président du comité consultatif national d'éthique, j'ai nommé Jean-François Delfraissy. Vous pourrez dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 vers 8h40.
Dans ce journal également, la crise des migrants. Londres prêt à faire un geste aujourd'hui lors d'un sommet franco-britannique. On ira sur place. C'est bien la petite Maëlys qui aurait été filmée dans la voiture du suspect le soir de sa disparition. Sa mère dit l'avoir reconnue. Enfin, dites 33, mais devant votre écran d'ordinateur, la Sécu lance aujourd'hui les négociations sur la télémédecine, la médecine à distance. Il était passé entre les gouttes jusqu'à présent. Le voilà rattrapé à son tour par la tornade Weinstein. Woody Allen sera-t-il le prochain cinéaste banni d'Hollywood? Les accusations contre le réalisateur de 82 ans sont anciennes, mais elles reviennent aujourd'hui. Des acteurs annoncent qu'ils ne tourneront plus avec lui. D'autres rendent leur cachet. Et sa fille adoptive, Dylan Farrow, témoigne sur CBS des agressions qu'elle aurait subies dans sa jeunesse. Grégory Phillips.
Depuis un peu plus de 20 ans, Dylan Farrow, la fille adoptive du réalisateur, l'accuse de l'avoir agressée sexuellement quand elle était une enfant âgée de 7 ans. Il n'y a jamais eu de poursuite et Woody Allen a toujours affirmé que sa fille était manipulée par son ex-femme, Mia Farrow, dans le cadre d'un divorce extrêmement compliqué. Pour la première fois à la télévision, Dylan Farrow témoigne donc. La chaîne CBS a diffusé hier soir un premier extrait de cet entretien.
Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'être en colère? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'avoir mal? Tout ce que je peux faire, c'est dire ma vérité et espérer que quelqu'un va me croire et pas seulement m'écouter.
Parallèlement, plusieurs comédiens prennent leur distance avec Woody Allen. Le jeune acteur franco-américain Timothée Chalamet dit aujourd'hui qu'il regrette avoir travaillé avec lui et annonce qu'il reversera le cachet perçu pour le film A Rainy Day in New York à plusieurs associations de victimes d'agressions sexuelles. Woody Allen a aujourd'hui 82 ans. Sa vie familiale est, disons, complexe. La relation qu'il a depuis 92 avec la fille adoptive de son ex-femme a défrayé la chronique et c'est son beau-fils, le journaliste Ronan Farrow, qui est l'auteur de l'enquête sur Harvey Weinstein, qui a entraîné ses révélations en cascade dans le milieu du cinéma américain. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et pendant ce temps en France, voilà Bébé qui s'invite dans le débat interview de Brigitte Bardot ce matin dans Paris Match. Visiblement, l'actrice n'a que mépris pour ses consoeurs qui prennent la parole contre le harcèlement sexuel. Hypocrite, ridicule, sans intérêt, dit-elle avant de conclure. Il y a beaucoup d'actrices qui font les allumeuses et qui ensuite, pour qu'on parle d'elles, viennent raconter qu'on les a harcelées. Fin de citation.
Il est 8h03, Marc. Ils ont 2 mois pour plier bagages.
Sinon, ce sont les gendarmes qui viendront les déloger. Ce sont les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, bien sûr. Ils ont fêté leur victoire hier et l'enterrement du projet d'aéroport dans le bocage nantais. Mais le gouvernement y a ajouté un ultimatum. Ils ont jusqu'à la fin de la trêve hivernale, fin mars, pour quitter les lieux. Bonjour Sandy Dauphin. Cette ZAD, vous y êtes. Bonjour. Ce matin. Et ce qu'on va surveiller maintenant, ce sont les routes qui la traversent, puisque le gouvernement demande aussi aux zadistes de les débloquer au plus vite. D'ici la fin de la semaine prochaine, dit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors, est-ce qu'ils ont l'intention de le faire?
Mais écoutez, sur ces 3 routes qui traversent la ZAD, il n'en reste plus qu'une d'occupée. C'est elle qui cristallise les tensions, la départementale 281, rebaptisée la route des chicanes. Cette petite route est devenue un symbole de l'occupation. Elle est jonchée d'obstacles. Les zadistes y ont construit des cabanes de briques et de brocs. Cela fait plusieurs semaines qu'une partie du mouvement anti-aéroport tente de convaincre les réfractaires de libérer cette route. Pour Sylvain Fresneau, agriculteur à Notre-Dame-des-Landes et l'un des leaders historiques, c'est un geste d'apaisement indispensable.
Hier soir, on a fait un petit débriefing, même si c'était plutôt la fête hier soir. Et beaucoup sont d'accord et les gens comprennent que oui, il faudra bien aussi que nous aussi, de notre côté, on fasse des actions. Et la majorité, alors dire tout le monde, certainement pas, mais la grande majorité, et je crois que ça va se régler dans le temps.
Les zadistes se retrouvent à huis clos ce matin pour discuter de l'avenir de la départementale 281. En attendant, eh bien, ce matin dans la ZAD, l'ambiance est calme comme un lendemain de fête.
Sandy Dauphin en direct avec Nicolas Mathias. Pas d'aéroport dans le Bocage. Le gouvernement a tranché en faveur de l'autre solution. L'aménagement de l'aéroport actuel de Nantes Atlantique. Il verra sa piste rallongée de 500 mètres. Et l'aéroport de Rennes lui sera modernisé pour absorber une partie du trafic. Renoncement, reniement, répond la droite, qui depuis hier s'en donne à cœur joie en dénonçant un président qui a la main qui tremble, Estelle Schmitt.
D'une seule voix, la droite dénonce un manque d'autorité de l'exécutif à l'image du patron des députés LR, Christian Jacob.
C'est le laxisme, on cède devant les voyous, c'est invraisemblable.
Faiblesse également de ne pas évacuer la ZAD tout de suite pour Claude Goasguen, député de Paris.
Je crois que la meilleure des solutions aurait été de nettoyer tout ça. On ne peut pas douleurer comme ça qu'on prenne une décision alors que des types copus qui en disant de toute façon quelle que soit votre décision, on s'en fout, on restera là.
La vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard, elle pointe un reniement du candidat Emmanuel Macron.
Je rappelle que pendant la campagne, il s'était engagé à expulser les zadistes et veiller à ce que l'aéroport soit construit. C'est plus qu'un faux pas, c'est une faute politique. Par le fait du prince, on décide de renoncer à un équipement qui a été validé par la population, validé par les élus locaux. Il y a quand même une procédure dans un état de droit qui doit être respectée, qui ne l'est pas.
Une décision qui crée aussi un précédent, estime le député du Pas-de-Calais. Et Daniel Fasquel.
Ça va évidemment donner des idées à d'autres qui, partout en France, maintenant, vont utiliser des voies qui ne sont pas forcément des voies légales pour s'opposer aussi à des projets régionaux ou locaux.
Pour la droite, c'est le premier gros caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron et elle compte bien en profiter pour s'emparer du rôle de premier opposant.
Et comme souvent, il y a aussi une petite voix dissonante à droite, c'est celle d'Alain Juppé. Il salue la décision gouverner, c'est choisir, écrit l'ancien Premier ministre. Et maintenant, à qui le tour? Car les grands chantiers très contesté ne manque pas en France, du contournement autoroutier de Strasbourg au projet de poubelle nucléaire de Bure dans la Meuse. Les opposants vont-ils reprendre du poil de la bête? Les zadistes de Nantes vont-ils se reporter sur d'autres combats? C'est ce qu'a voulu savoir Emmanuel Champal en Isère, où le projet de construire un Center Park à Roibon continue de faire débat.
Ce qu'a surtout retenu André, en train de promener son chien dans une ruelle de Roibon, c'est moins l'abandon du projet d'aéroport que l'expulsion annoncée des zadistes de Notre-Dame-des-Landes en mars.
Si les fiches dehors de là-bas, ils vont bien venir ici. Hein.
Comme André, Michel est favorable au projet de Pierre et Vacances. Et si, par rapport à d'autres, elle reste très modérée dans ses propos, l'arrivée possible d'activistes en quête d'un nouveau combat la préoccupe.
Moi, je vais souvent me promener à la ZAD. Il y a plein de squelettes de voitures. C'est beau de vivre dans la nature, mais bon. Peut-être pas trop la détériorer.
Christian Luciani, qui préside l'association Pro Center Parks, a bien entendu ce qu'a dit le Premier ministre sur l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Et désormais, même si le terrain de Roibon n'appartient pas à l'État, il attend des actes.
Un état de droit, partout. C'est un test évident qu'on va voir comment effectivement le gouvernement va faire pour se débarrasser de ce problème.
Le message en tout cas a été reçu 5 sur 5 par Paul, qui ne se qualifie pas de zadiste, mais de militant politique, tendance anarchiste et communiste.
On sait très bien que ça nous pend au nez. Un jour, on aura sans doute une armée de flics qui viendra pour nous déloger, mais je ne pense pas qu'on fait partie des espaces prioritaires.
En attendant, la bataille judiciaire continue. Le Conseil d'État, saisi par Pierre et Vacances, doit désormais se prononcer sur l'arrêté préfectoral qui permettrait de reprendre les travaux du centre de loisirs.
Et ce matin, Nicolas Hulot menace dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La décision du gouvernement n'est en aucun cas une licence pour reproduire ce type d'action, dit le ministre de la Transition écologique. Après l'aéroport dans l'Ouest, voici la centrale nucléaire dans l'Est, celle de Fessenheim. En Alsace. Le gouvernement y lance aujourd'hui le compte à rebours avant la fermeture. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu arrive sur place. Il va y passer 3 jours à la rencontre des salariés de la centrale, de la direction, des élus également. Fessenheim, plus vieille centrale de France, doit cesser de produire du courant d'ici 1 an, a priori, lorsque l'EPR de Flamanville aura pris le relais.
France Inter, 8h09. Un suspect, Marc, mais toujours pas d'aveu dans l'affaire Maëlys.
Et un nouvel élément pourrait peut-être faire avancer l'enquête. 5 mois après la disparition de la fillette lors d'un mariage en Isère, sa mère est catégorique. Elle affirme que c'est bien sa fille qui se trouvait dans la voiture du suspect, filmée la nuit de la disparition. Mathilde Lemaire.
Ces images présentées aux parents de Maëlys proviennent d'une caméra fixée au-dessus d'un commerce de Pont de Beauvoisin à hauteur d'un ralentisseur. La voiture est une Audi A3 grise, jante sport, avec un autocollant sur une des vitres arrière. Des détails qui font dire aux enquêteurs qu'il s'agit bien de la voiture de Nordal Lelandais, même si lui répète que ça n'est pas son véhicule. Des images prises de nuit, quelques minutes après la disparition de l'enfant, elles ne sont donc pas nettes, impossible de distinguer le conducteur. l'ordinateur, il est dans l'obscurité. En revanche, à la place du passager, on voit une forme humaine d'un blanc éclatant, une forme fine complètement collée à la portière, n'occupant donc pas toute la largeur du siège. Sur la troisième photo tirée de cette vidéosurveillance, on devine le haut d'un vêtement. Pour la maman de Maëlys, pas de doute, c'est le col rond à large bretelle de la robe que portait sa fille pour le mariage. Pour l'avocat du suspect, c'est plutôt un col carré comme un décolleté de femme. Les parents de Maëlys pensent que Nordal, le Landais, cache des informations qui pourraient leur permettre de savoir ce qu'est devenu leur enfant. Malgré un faisceau d'indices troublants, l'ex-militaire clame son innocence. Son avocat vient, dans cette logique, de demander sa remise en liberté. Elle a toutes les chances d'être rejetée.
Après une pause hier, le mouvement des gardiens de prison reprend ce matin. Nouveau blocage déjà signalé alors que deux nouvelles agressions ont été signalées par les syndicats hier et avant-hier à la maison d'arrêt de Vars en Isère. À Paris, les négociations entre les syndicats et le ministère de la Justice ont abouti à un projet d'accord hier. Projet qui doit maintenant être soumis à Matignon.
Un nouveau traité pour soulager Calais.
Emmanuel Macron se déplace près de Londres aujourd'hui pour un sommet franco-britannique aux côtés de Theresa May. Et c'est la question des migrants qui va dominer les débats. Il s'agit de compléter les accords du Touquet, signés en 2003 dans la foulée de la fermeture du centre de Sangatte. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres. Pas question de toucher à la frontière, elle va rester du côté français, mais les Anglais vont payer un petit peu plus.
Oui, ce sont d'abord des engagements chiffrés. En renforçant les contrôles à Calais, les Britanniques acceptent de continuer à financer une partie des opérations. Ils vont continuer d'envoyer des policiers sur place et pourraient même financer une partie de la revitalisation économique de la région pour aider les commerçants à faire revenir les touristes. Et puis, ce nouveau texte doit enfin permettre de fixer des délais légaux de traitement des dossiers pour accélérer les procédures de regroupement familial et améliorer la prise en charge des mineurs isolés. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, au moment du démantèlement de la jungle de Calais, les associations avaient recensé près de 3000 enfants et adolescents. Theresa May, la première ministre britannique, s'était engagée à les accueillir, mais depuis, ils ne sont que quelques centaines à avoir obtenu des papiers. Le sujet reste très sensible ici. Depuis hier, les tabloïds qui ont fait campagne contre le Brexit en jouant sur la peur des étrangers publient de longs articles pour inciter le gouvernement à bloquer au maximum les réfugiés qui tentent de traverser la Manche.
Antoine Gignot en direct de Londres pour France Inter. Un cadeau à 38 milliards de dollars pour Donald Trump. Le géant Apple va devoir se plier à la réforme fiscale qu'il vient de faire adopter. Il va donc verser cette manne au fisc américain. C'est une immense victoire pour les travailleurs. C'est aussitôt félicité le président américain. Le groupe Renault-Nissan boucle l'année 2017 sur les chapeaux de roue. Cette fois, c'est confirmé. L'alliance dirigée par Carlos Ghosn est devenue le premier constructeur de la planète. 10 600 000 voitures écoulées. C'est 100 000 de plus que Volkswagen et 300 000 de plus que Toyota. Mais c'est suffisant pour décrocher la couronne mondiale.
8h12, voilà des questions qui nous concernent, Marc, toutes et tous.
La vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Les états généraux de la bioéthique débutent aujourd'hui. 6 mois de réflexion qui aboutiront à un projet de loi à l'automne. On va y parler bien sûr de la PMA. Faut-il l'étendre aux femmes seules ou aux couples de femmes? On y parlera également de la fin de vie, mais aussi des progrès de la science, des tests génétiques ou encore de l'intelligence artificielle. Et parmi les progrès qui sont en train de changer sans doute l'usage de la médecine, il y a les consultations à distance, la télémédecine, que ce soit au téléphone ou via Internet. Quelle garantie pour les patients? Combien faut-il payer ces consultations? La Sécu lance aujourd'hui les négociations avec les syndicats de médecins. Véronique Julia.
Dans la loi, la définition est stricte. Pour rémunérer l'acte de télémédecine, il faudra que la connexion soit sécurisée et qu'il y ait vidéotransmission. À partir de là, les syndicats de médecins déjà s'interrogent. D'abord, qui paiera les équipements et les formations nécessaires à ces consultations? Ensuite, la définition retenue leur semble un peu restrictive. Margot Bayard est généraliste. Elle passe 2 heures par jour au téléphone avec des patients. Elle appelle ça du téléconseil et elle veut que ce temps-là aussi figure dans la négociation.
Quand nous sommes débordés par les consultations, les secrétaires me demandent de prendre les appels pour les réguler. Ça m'évite des consultations, je rassure les gens, j'évalue les résultats d'analyse qui les inquiètent. Je ne suis pas rémunérée là-dessus.
La négociation doit permettre aussi de rémunérer la télé-expertise. Quand un médecin traitant demande à distance son avis pour un patient à un spécialiste. Dans ce cas, qui devra être payé? Le médecin traitant et ou le spécialiste? Les deux, estime Jacques Battistoni. Il préside le syndicat de généralistes MG France.
Ce qui nous paraît important, c'est que l'acte du médecin qui demande la télé-expertise, qui est un acte de recueil d'informations, de synthèse et de questionnement, soit valorisé à la même hauteur que le médecin expert qui donne son avis sur une situation qui est déjà largement déblayée, exposée.
Les syndicats réclament tous, je cite, une rémunération réellement incitative. Ils ne connaissent pas encore le montant de l'enveloppe que l'assurance maladie est prête à mettre sur la table.
Les sports et le tennis à Melbourne. Caroline Garcia a dû batailler pendant 3-7 cette nuit face à la Tchèque Vondroušová pour franchir le deuxième tour. C'est terminé. En revanche, pour Gaël Monfils, Fabrice Abgral battu par sa bête noire, le Serbe Djokovic.
En effet, Gaël, mon fils battu par Novak Djokovic, l'ex numéro 1 mondial, sextuple vainqueur ici à Melbourne. Gaël, mon fils, s'est incliné en 4-7 et 2h45 dans des conditions extrêmes puisqu'aujourd'hui, il a fait 39 degrés ici à Melbourne. Alors après le gain de la première manche, Gaël, mon fils, a essuyé une énorme défaillance au milieu du deuxième set et il ne s'en est jamais véritablement remis, laissant Djokovic signer sa 15e victoire face à Gaël Monfils en autant de matchs disputés depuis 2005. Mais l'exploit va peut-être venir de Julien Beneteau puisqu'il est opposé à David Goffin, le Belge, 7e mondial. Beneteau mène 2-7-1. Il vient de faire le break dans la 4e manche. 4-3 en faveur du Bressin.
Fabrice Abgral, dans la fournaise de Melbourne, couvrez-vous bien, hein, Fabrice, il ne s'agirait pas d'attraper une insolation aujourd'hui en Ligue 1. Le carton du PSG, hier soir, 8-0 face à Dijon, dont un quadruplé signé Neymar. Les Parisiens continuent de survoler la Ligue 1, 11 points d'avance sur Lyon, qui a repris hier soir la deuxième place. Lui aussi survole tous les classements et ça fait 7 ans que ça dure. Guillaume Musso reste le romancier le plus lu en France, 1,5 million de livres vendus l'an dernier, dans le dernier classement GFK pour le Figaro. Derrière, et c'est une petite surprise, l'arrivée en deuxième position de la romancière Raphaël Giordano pour son tout premier roman « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». C'est le titre du roman, hein, Nicolas, c'est pas moi qui vous disais ça ce matin.
Mais vous pourriez, hein. Restez avec nous, Marc Fauvel. Un mot plein de joie, de bonheur et de fierté pour vous remercier, chers auditeurs. Merci, merci, merci du fond du cœur. Vous êtes 6 115 000 à écouter France Inter tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est magnifique, Léa.
Et en ce qui concerne le 7-9, eh bien là aussi, vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci à vous, près de 4 millions d'auditeurs à écouter la première matinale de France. On en est heureux. Et vous, mon cher Marc, eh bien vous restez l'homme le plus écouté de France, avec quelques 2 200 000 auditeurs qui écoutent votre journal de 8 heures.
Parce que j'arrive juste après votre interview.
Oui, bien sûr.
Et alors, ça fait quoi? On a le droit d'interviewer l'homme le plus écouté de France?
Non, on va se réjouir et de remercier tous les auditeurs et toutes les auditrices.
Et oui, évidemment. C'est ça surtout. C'est merci aux auditeurs.
Ouais, merci à tous.